Il fut ensuite plusieurs minutes à faire des clignements d'yeux incompréhensibles. Enfin, il déclara que, moyennant 40 sous, il déchirerait les coins de l'affiche déjà posée en bas contre la porte. Rosanette s'y trouvait désignée par son nom, rigueur exceptionnelle qui marquait toute la haine de la Vatnaz. Elle avait été sensible autrefois et même, dans une peine de cœur, avait écrit à Béranger pour en obtenir un conseil. Mais elle s'était aigrie sous les bourrasques de l'existence, ayant, tour à tour, donné des leçons de piano, présidé une table d'hôte, collaboré à des journaux de mode, sous-loué des appartements, fait le trafic des dentelles dans le monde des femmes légères, où ses relations lui permirent d'obliger beaucoup de personnes, Arnoux entre autres. Elle avait travaillé auparavant dans une maison de commerce. Elle y soldait les ouvrières. Il y avait pour chacune d'elles 2 livres, dont l'un restait toujours entre ses mains. Dussardier, qui tenait par obligeance celui d'une nommée Hortense Balin, se présenta un jour à la caisse au moment où Mademoiselle Vatnaz apportait le compte de cette fille, 1682 francs, que le caissier lui paya. Or, la veille même, Dussardier n'en avait inscrit que 1082 sur le livre de la Balin. Il le redemanda sous un prétexte, puis, voulant ensevelir cette histoire de vol, lui conta qu'il l'avait perdue. L'ouvrière redit naïvement son mensonge à Mademoiselle Vatnaz. Celle-ci, pour n'avoir le cœur net, d'un air indifférent, vint en parler au brave commis. Il se contenta de répondre « Je l'ai brûlé ». Ce fut tout. Elle quitta la maison peu de temps après, sans croire à l'anéantissement du livre et s'imaginant que Dussardier le gardait. À la nouvelle de sa blessure, elle était accourue chez lui dans l'intention de le reprendre. Puis, n'ayant rien découvert, malgré les perquisitions les plus fines, elle avait été saisie de respect et bientôt d'amour pour ce garçon si loyal, si doux, si héroïque et si fort. Une pareille bonne fortune à son âge était inespérée. Elle se jeta dessus avec un appétit d'ogresse. Elle en avait abandonné la littérature, le socialisme, les doctrines consolantes et les utopies généreuses, le cours qu'elle professait sur la désubalternisation de la femme, tout, Delmar lui-même. Enfin, elle offrit à Dussardier de s'unir par un mariage. Bien qu'elle fût sa maîtresse, il n'en était nullement amoureux. D'ailleurs, il n'avait pas oublié son vol. Puis, elle était trop riche. Il la refusa. Alors, elle lui dit, en pleurant, les rêves qu'elle avait faits. C'était d'avoir à eux deux un magasin de confection. Elle possédait les premiers fonds indispensables, qui s'augmenteraient de 4 000 francs la semaine prochaine. Et elle narra ses poursuites contre la maréchale. Dussardier en fut chagrin, à cause de son ami. Il se rappelait le porte-cigare offert au corps de garde, les soirs du quai Napoléon, tant de bonnes causeries, de livres prêtés, les 1000 complaisances de Frédéric. Il pria la Vatnaz de se désister. Elle le railla de sa bonhomie, en manifestant contre Rosanette une exécration incompréhensible. Elle ne souhaitait même la fortune que pour l'écraser plus tard avec son carrosse. Ces abîmes de noirceur effrayèrent Dussardier, et quand il sut positivement le jour de la vente, il sortit. Dès le lendemain matin, il entrait chez Frédéric avec une contenance embarrassée. « J'ai des excuses à vous faire. »« De quoi donc ?»« Vous devez me prendre pour un ingrat, moi dont elle est... » Il balbutiait. « Oh, je ne la verrai plus. Je ne serai pas son complice. » Et l'autre, le regardant, tout surpris. « Est-ce qu'on ne va pas, dans 3 jours, vendre les meubles de votre maîtresse ? Qui vous a dit cela ? » ?»« Elle-même, la Vatnaz, mais j'ai peur de vous offenser. » »« Impossible, cher ami. » « Ah, c'est vrai, vous êtes si bon !» Et il lui tendit, d'une main discrète, un petit portefeuille de basane. C'était 4 000 francs, toutes ses économies. « Comment ? Ah non, non !»« Je savais bien que je vous blesserais, » répliqua Dussardier, avec une larme au bord des yeux. Frédéric lui serra la main, et le brave garçon reprit, d'une voix dolente, « Acceptez-les, faites-moi ce plaisir-là, je suis tellement désespéré. Est-ce que tout n'est pas fini, d'ailleurs ?» J'avais cru, quand la révolution est arrivée, qu'on serait heureux. Vous rappelez-vous comme c'était beau, comme on respirait bien. Mais nous voilà retombés pire que jamais. Et fixant ses yeux à terre, maintenant ils tuent notre République, comme ils ont tué l'autre, la Romaine, et la pauvre Venise, la pauvre Pologne, la pauvre Hongrie. Quelles abominations! D'abord, on a abattu les arbres de la liberté, puis restreint le droit de suffrage, fermé les clubs, rétabli la censure et livré l'enseignement aux prêtres. En attendant l'Inquisition, pourquoi pas? Des conservateurs nous souhaitent bien les Cosaques. On condamne les journaux quand ils parlent contre la peine de mort. Paris regorge de baïonnettes. 16 départements sont en état de siège. Et l'amnistie qui est encore une fois repoussée. Il se prit le front à 2 mains. Puis, écartant les bras comme dans une grande détresse. « Si on tâchait, cependant, si on était de bonne foi, on pourrait s'entendre, mais non. Les ouvriers ne valent pas mieux que les bourgeois, voyez-vous. À Elbeuf, dernièrement, ils ont refusé leur secours dans un incendie. Des misérables traitent Barbès d'aristocrate. Pour qu'on se moque du peuple, ils veulent nommer à la présidence Nadeau, un maçon, je vous demande un peu. Et il n'y a pas de moyen, pas de remède, tout le monde est contre nous. Moi, je n'ai jamais fait de mal, et pourtant, c'est comme un poids qui me pèse sur l'estomac. J'en deviendrai fou si ça continue. J'ai envie de me faire tuer. Je vous dis que je n'ai pas besoin de mon argent. Vous me le rendrez, parbleu, je vous le prête. » Frédéric, que la nécessité contraignait, finit par prendre ses 4 000 francs. Ainsi, du côté de la Vatenaze, il n'avait plus d'inquiétude. Mais Rosanette perdit bientôt son procès contre Arnoux et par entêtement voulait en appeler. Des Lauriers s'exténua à lui faire comprendre que la promesse d'Arnoux ne constituait ni une donation ni une cession régulière. Elle n'écoutait même pas, trouvant la loi injuste. C'est parce qu'elle était une femme, les hommes se soutenaient entre eux. À la fin, cependant, elle suivit ses conseils. Il se gênait si peu dans la maison que plusieurs fois il amena Sénécal y dîner. Ce sans façon déplut à Frédéric, qui lui avançait de l'argent, le faisait même habiller par son tailleur, et l'avocat donnait ses vieilles redingotes aux socialistes, dont les moyens d'existence étaient inconnus. Il aurait voulu servir Rosanette, cependant. Un jour qu'elle lui montrait 12 actions de la compagnie du Kaolin, cette entreprise qui avait fait condamner Arnoux à 30 000 francs, il lui dit « Mais c'est véreux, c'est superbe !» Elle avait le droit de la signer pour le remboursement de ses créances. Elle prouverait d'abord qu'il était tenu solidairement à payer tout le passif de la compagnie, puis qu'il avait déclaré comme dette collective des dettes personnelles, enfin qu'il avait diverti plusieurs effets de la société. Tout cela le rend coupable de banqueroute frauduleuse, articles 586 et 587 du Code de commerce. Et nous l'emballerons, soyez-en sûre, ma mignonne. » Rosanette lui sauta au cou. Il la recommanda le lendemain à son ancien patron, ne pouvant s'occuper lui-même du procès, car il avait besoin à Nogent. Sénéca lui écrirait en cas d'urgence. Ses négociations pour l'achat d'une étude étaient un prétexte. Il passait son temps chez M. Rock, où il avait commencé non seulement par faire l'éloge de leur ami, mais par l'imiter d'allure et de langage autant que possible, ce qui lui avait obtenu la confiance de Louise, tandis qu'il gagnait celle de son père en se déchaînant contre le Dru Rollin. Si Frédéric ne revenait pas, c'est qu'il fréquentait le grand monde. Et peu à peu, Des Lauriers leur apprit qu'il aimait quelqu'un, qu'il avait un enfant, qu'il entretenait une créature. Le désespoir de Louise fut immense. L'indignation de Madame Moreau non moins forte. Elle voyait son fils tourbillonnant vers le fond d'un gouffre vague.